L'empereur du Japon annonce aux souverains de toutes les nations étrangères et à leurs sujets que la démission du shogun a été acceptée et que seul désormais il exerce le pouvoir suprême pour les affaires intérieures et extérieures. Rescrit de l'empereur Mutsuhito le 7 février 1868.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au milieu du XIXe siècle, le Japon est encore un État médiéval. Depuis 1639, il s'est fermé aux influences étrangères, tout particulièrement occidentales, et a cru bon de rester dans ses traditions pour défier le sens de l'histoire et le temps qui passait. Or, en 1854, un bateau américain, commandé par le commandant Perry, est rentré dans la baie de Nagasaki et, sous la contrainte de ses puissants canons, a obligé le Japon à accepter sa présence. Qui plus est, en 1858, les États-Unis obtiennent du Japon la possibilité de commercer avec l'Empire du Soleil Levant. Seulement, quelle était exactement, à ce moment-là, la structure médiévale du Japon ? Théoriquement, au sommet de l'État, un empereur, le Mikado. Il est d'origine divine, il est le descendant de la déesse de la lune, et donc il a un aura particulier, un charisme religieux particulier. Seulement, on le voit peu, et son pouvoir est en fait relativement étroit. Le véritable pouvoir se trouve dans les mains du shogun, c'est-à-dire un chef d'origine aristocratique qui réussit à contrôler la noblesse japonaise, maintenant ainsi un système féodal. Au-dessous du shogun se trouvent les daimyo, à peu près 300 personnes, 300 nobles, chefs de guerre, et qui assurent leur maîtrise du territoire par une série de châteaux. Enfin, sous les ordres de ces chefs de guerre, se trouvent des samouraïs, guerriers, qui maintiennent l'ordre dans un pays très largement rural. 90% de la population se trouve dans les campagnes. Et puis arrive évidemment la crise, parce que face à la modernité qu'a représentée l'ouverture vis-à-vis des États-Unis, le Japon se trouve face à des contradictions. Le régime shogunal entre en crise. On voit très bien que le Japon n'est plus en mesure de discuter d'égal à égal avec les puissances occidentales. Et le déclic vient du moment où, en janvier 1867, un nouvel empereur monte sur le trône. Il s'agit de Mutsuhito. Celui-ci a à peine 15 ans, mais une réelle finesse d'esprit, une intelligence et une volonté absolue. En 1868, il oblige le shogun à la démission et à se retirer. Par un rescrit impérial du 7 février 1868, il annonce aux puissances que désormais l'empereur joue le premier rôle au Japon. Qui plus est, il va se montrer impitoyable vis-à-vis des résistances rencontrées. En effet, la chute du système shogunal n'est pas allée sans difficulté. Les samouraïs, qui vivaient de l'ancien système, se sont révoltés en 1876, mais ils ont été écrasés de manière sanglante par les armées de l'empereur. L'idée de Mutsuhito est à la fois de faire rentrer le Japon dans l'ère moderne, en prenant modèle sur l'Occident, et en même temps être capable de garder la civilisation traditionnelle du Japon.
Thank you.
De manière symbolique, en 1868, le jeune souverain va déplacer la capitale impériale. Jusque-là, elle se trouvait à Kyoto. Eh bien, l'empereur décide de la déplacer dans la ville de Yedo, qui s'appelle désormais Tokyo. Qui plus est, il va donc prendre modèle sur l'Occident pour moderniser le vieil empire. D'abord, il va pratiquer une égalité de tous devant la loi. Ainsi, en 1873, on rapporta les édits qui opprimaient les petites communautés chrétiennes. D'autre part, en 1872, l'empereur rend l'instruction publique obligatoire et on rédigea toute une série de codes inspirés des codes français et allemands. En matière judiciaire, la torture fut abolie. De plus, deux flottes de commerce et de guerre furent mises en chantier. Le service militaire obligatoire est institué afin de doter le Japon d'une armée puissante et organisée sur le modèle allemand. Dans les années 1870, on commença à construire des chemins de fer, des lignes télégraphiques. On développa une grande industrie métallurgique et textile qui permit au Japon de faire moins appel à l'industrie étrangère. En l'espace de quelques années, on avait le sentiment que le Japon avait réussi à regagner le retard qu'il avait sur l'Europe. En matière politique, l'empereur Mutsuhito accorda en 1889 une constitution qui voulait ainsi parlementariser quelque peu le système impérial. Il crée un cabinet impérial où il s'entoure des ministres les plus proches et il laisse un parlement coexister à côté, élu au suffrage censitaire, composé d'une chambre des pairs nommée par l'empereur et d'une chambre des députés élue par les élites japonaises. Ce parlement vise à voter le budget et à voter les lois. Mais le gouvernement n'est pas responsable devant lui. Ainsi, le système parlementaire japonais est loin d'aller jusqu'au bout d'une logique parlementaire. À la fin du XIXe siècle, il est bien évident que cette modernisation impressionnante du Japon va avoir aussi des conséquences sur les aspects extérieurs. Le Japon, nous l'avons vu tout à l'heure, était fermé à l'Occident, mais il était aussi fermé à toute grande entreprise extérieure. Il n'avait pas véritablement, avant l'ère Meiji, de grandes idées impérialistes. Or, à la fin du XIXe siècle, le Japon estime qu'il a droit, lui aussi, à sa place au soleil en Asie. En 1894, une guerre sino-japonaise éclate. Le vieil empire chinois est alors aux prises avec les puissances occidentales. Le traité de Shimonoseki, en 1895, permet aux Japonais d'occuper l'île de Formose, Taïwan aujourd'hui. Mais ce qui a surpris le plus les chancelleries occidentales, ce fut la guerre contre la Russie en 1904-1905. Le Japon avait eu l'habileté de conclure en 1902 une alliance avec la Grande-Bretagne. Ainsi, il disposait en Occident d'un allié puissant. Il pouvait essayer d'affronter le colosse russe. En effet, en Mandchourie, dans les îles Sakhalin, en Corée, Japonais et Russes se disputaient l'influence. Par surprise, en 1904, les Japonais attaquent la base russe de Port Arthur, amenant la garnison à la capitulation. Les troupes impériales russes sont vaincues à Mukden. Mais le pire est à venir pour les Russes. Une escadre de secours qui est partie de la Baltique et qui a remonté ensuite tout l'océan Indien jusqu'à la mer de Chine et jusqu'à la zone du Japon est détruite du côté de Tsushima. La victoire est totale. Elle fait du Japon une grande puissance en Asie. Les Japonais peuvent s'emparer d'une partie des îles Sakhalin, gagnent en influence en Mandchourie en Chine, et enfin en 1910, peuvent annexer la Corée. Ainsi, vous l'avez compris, l'ère Meiji est une ère fondamentale dans l'histoire du Japon contemporain. On passe de l'empire médiéval à une grande puissance qui est prête à concurrencer les Occidentaux en Asie. Et puis, le Japon a su garder sa vieille tradition. En effet, quand le souverain décède en 1912, un de ses meilleurs généraux, le général Nogi, décide qu'il ne survivra pas à son empereur. Et avec son épouse, il se suicide pour ne pas survivre à Mutsuhito, qui avait symbolisé à lui seul l'ère Meiji, c'est-à-dire l'ère des Lumières.